Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. S'agissait-il des premiers signes d'un krach financier, d'un simple avertissement, voire d'un réajustement après l'euphorie du début d'année? Il y a une semaine, la plupart des bourses mondiales étaient inquiètes, au bord de la panique même, pour reprendre certains titres de presse. Wall Street, en forte baisse, entraînait dans son sillage les autres marchés. À première vue, il n'y a pourtant pas de raison de s'inquiéter. Les fondamentaux de l'économie mondiale sont plutôt solides. La Banque mondiale, comme les autres grandes institutions, est optimiste. On peut même lire sur son site que 2018 a de bonnes chances d'être la première année depuis la crise financière où l'économie mondiale tournera à plein régime ou presque. Le problème, c'est que manifestement, les marchés n'en font qu'à leur tête. L'économie va mieux, et bien c'est justement un motif d'inquiétude chez les investisseurs qui voient les prémices d'un retour de l'inflation, donc d'une hausse des taux d'intérêt, donc de la fin de l'argent qui ne coûte quasiment rien. Le changement de paradigme crée du désordre, quel que soit le changement. Alors les bourses menacent-elles la reprise? Eh bien on en discute ce soir et jusqu'à 19h en compagnie de trois économistes. Sébastien Jean, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez le CEPI, le Centre de Recherche et d'Expertise sur l'économie mondiale, qui, comme chaque année, publie l'économie mondiale. L'édition de cette année s'appelle évidemment l'économie mondiale 2018. C'est publié dans la collection Repères aux éditions La Découverte. Pour discuter avec vous, Eric Heyer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez le département analyse et prévision de l'OFCE. L'OFCE, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et puis notre troisième invitée, elle est en duplex des studios de France Bleu à Nancy. Il s'agit de Yamina Tajedine. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie à l'Université de Lorraine et vous êtes la co-auteur de La Fabrique de la Finance qui a été publiée en 2015. C'était aux éditions du Septentrion. Alors Sébastien Jean, c'est avec vous que je voudrais démarrer la discussion en évoquant ce qui est écrit en quatrième de couverture de l'économie mondiale 2018. Cette édition, dites-vous, 2018, est sans nul doute la plus optimiste depuis la crise financière. Quelles sont les raisons qui vous valent d'être à ce point optimiste?
C'est un optimisme, disons, de court terme, si on veut, mais ça rejoint ce que vous mentionnez à propos du jugement récent de la Banque mondiale, c'est-à-dire qu'il y a une certaine synchronicité d'une reprise économique dans la plupart des grandes économies mondiales, si bien que, qui plus est, c'est des bonnes nouvelles relativement positives, dont d'ailleurs celles qui ont leur origine dans la zone euro, se transmettent en plus via le commerce international, par exemple, et ça crée un environnement globalement assez positif qui, en plus, dénote avec les années qui se sont succédées depuis la crise, où on a quand même eu cette grave crise économique et financière qui a laissé derrière elle une zone de basse pression en termes de croissance et d'inflation, et qui, en plus, est redoublée avec la crise de la zone euro.
Quels sont pour vous les principaux indicateurs, justement, qui permettent de se dire que cette année 2018 sera vraiment une année intéressante sur le plan économique?
Disons que, d'une part, il y a un taux de croissance de l'économie mondiale qui est remonté. Et par ailleurs, ce qui est assez remarquable, c'est que la plupart des grandes zones ont vu une amélioration de leur période, de leur perspective de croissance. Même dans les pays où ces perspectives n'étaient pas forcément très, très bonnes, comme le Brésil ou la Russie, elles se sont améliorées par rapport à ce que c'était l'an dernier ou il y a deux ans où c'était vraiment une crise profonde. Donc voilà, une amélioration concomitante dans la plupart des grandes zones. C'est une situation qu'on n'avait pas vue depuis plusieurs années, depuis longtemps.
Est-ce que vous partagez cet optimisme, Eric Heyer?
Oui, il y a cette concordance et alors alignement des planètes, enfin appelons-le comme on veut, mais effectivement, il y a une croissance économique qui est assez robuste. Ce qui était et assez étonnant, et peut-être qu'on en viendra plus tard, c'était que y compris des zones qui on pouvait penser, enfin qui avaient déjà fait leur rattrapage et qui étaient déjà arrivées au plein emploi, donc on peut penser aux États-Unis, on peut penser à l'Allemagne, continue à croître sans inflation. Donc ça, c'était effectivement extrêmement étonnant parce que on avait cette idée que une fois qu'on était au plein emploi, on ne pouvait plus croître à des rythmes de rattrapage, qu'il n'y avait plus de grains à moudre, si je peux me permettre l'expression ici. Et donc, globalement, il y a à avoir un tassement de la croissance économique, un ralentissement, et ce ralentissement, on ne le voit pas. On ne le voit pas aujourd'hui. Ce n'est pas dans les perspectives de 2018. Ça ne veut pas dire que ça n'existerait pas. Mais on voit bien que le chiffre qui a causé un petit peu les raisons de ce de ce mini crack, c'est même pas un mini crack, c'est juste une correction. C'est bien que peut-être qu'on s'est un peu trompé là-dessus, on était peut-être un peu optimiste, parce que comment on le voit que finalement une économie tourne à plein régime, c'est lorsque les salaires progressent, et puisqu'on voyait pas les salaires progresser, ou en tout cas de façon significative, on disait non, on n'y est pas encore, et donc on va continuer à croître. Il y a eu un chiffre, une statistique, alors vous voyez qu'une statistique sur un mois en fait, hein, c'est-à-dire le mois de janvier aux États-Unis où il y a eu une progression de 4,5% des salaires, et ça c'est effectivement, si ça devait se reproduire, ça voudrait dire, c'est un signal qu'attention, il y a certaines zones, donc d'abord les États-Unis, puis on voit en Allemagne, on commence à avoir des petits signaux aussi, et peut-être qu'il y aurait un début de ralentissement de cette croissance dans certaines zones, et donc peut-être qu'il y a un tassement, mais aujourd'hui, ce n'est pas le risque principal.
Alors vous nous expliquerez dans un instant pour quelle raison, parce que ça paraît assez contre-intuitif, une statistique qui témoigne d'une hausse des salaires aux États-Unis peut provoquer un début de crack financier, mais pour poursuivre mon tour de table sur votre appréciation de la situation économique actuelle. Yamina Tajeddine, même question qu'à Sébastien Jean et qu'à Eric Heyer. Est-ce que, disons, les raisons d'être optimiste aujourd'hui l'emportent sur les raisons d'être encore un petit peu prudent?
Alors moi, j'aurais un autre son de cloche, parce que effectivement, si on regarde la sphère réelle, effectivement, tout va bien mieux qu'il y a quelques années. Mais sur les marchés financiers, tout va bien depuis quand même pas mal d'années. Et donc, au fond, on voit qu'on a quelque chose qui est un peu bizarre. C'est alors que tout va bien maintenant au niveau des fondamentaux économiques, eh bien, on constate que ce qui a permis aux marchés financiers de repartir depuis 2010-2011, à savoir la politique d'assouplissement menée par les banques centrales, l'endettement qui est quand même reparti au shadow banking, eh bien, en fait, maintenant, on réalise qu'ils sont porteurs de risques. Et donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est un peu ce contraste entre ceux qui vont regarder plutôt des données de la sphère réelle et puis ceux comme moi qui sont plutôt tournés vers les marchés financiers, où on se dit, ouh là là, quand même, shadow banking, ça représente 92 000 milliards d'actifs. La Chine, elle est endettée à hauteur de 32 000 milliards. Ok, c'est bien que la croissance reparte, mais au fond, du côté financier, les choses ne sont pas si belles.
Mais du coup, vous diriez quoi, Yamina Tajeddine? Que les marchés financiers préfèrent, quand on est dans une phase de quasi-récession, et se portent mieux dans ces conditions-là? Ou bien c'est le fait que ça aille mieux sur le plan de l'économie réelle? Je ne sais pas si c'est un terme qui vous convient à tous les trois. Et si c'est le fait que ça aille mieux qui révèle justement un certain nombre de problèmes sur les marchés financiers?
Mais je dirais comme la crise partait des marchés financiers, c'est vrai que la tentation forte a été de résoudre les problèmes du côté de la finance. Et donc, on a laissé quand même une large part des solutions auprès des politiques monétaires, qui l'ont finalement très bien fait, hein, c'est-à-dire qu'elles ont agi de façon très positive et efficace, et ce qui permet sans doute aujourd'hui aussi, par exemple en Europe, d'avoir cette croissance que l'on note. Mais d'un autre côté, eh bien, elles n'ont pas résolu ce qui était l'origine de la crise, à savoir par exemple la question du shadow banking ou de l'endettement. Donc j'aurais une réponse plus nuancée, c'est-à-dire qu'au fond, elles ont agi pour résoudre, enfin du côté des banques centrales, mais d'un autre côté, eh bien, finalement, elles ont de nouveau contribué à ce qui pourrait induire à terme un ralentissement économique, même si, encore une fois, on n'est pas du tout dans la même configuration de 2007-2008, et notamment, enfin j'y reviendrai je pense plus tard, le canal du crédit est quand même bien moins mobilisé qu'en 2007-2008.
Donc en tout cas, une fragilité, Eric Heyer, qu'il ne faut pas négliger.
Ah oui, non, mais bien entendu, enfin je pense, enfin, c'est ce que voulait dire aussi Sébastien Jean, mais que c'était du court terme. À court terme, effectivement, il y a une reprise économique que l'on voit un peu partout. Maintenant, est-ce qu'elle est soutenable, cette croissance économique? Certainement pas. Et on peut dire avec certitude que la prochaine crise est devant nous. Ça, il y a aucun problème. Et qu'il y a des déséquilibres, effectivement, à la fois financiers. Il y a des déséquilibres aussi des balances courantes. Enfin, il y a un grand nombre de déséquilibres qui portent en leur sein, donc, les germes de la prochaine crise. Est-ce que on pouvait marquer, effectivement, un scénario? Mais pas tellement en 2018. Effectivement, on pensait qu'il y avait encore un peu de marge de manœuvre et que les banques centrales étaient encore là pour assurer cette croissance en 2018. Mais au-delà de 2018, effectivement, des risques de ralentissement étaient certains.
Donc il faut profiter peut-être de cette éclaircie qui ne serait que passagère, Sébastien Jean.
Oui, ce qui est certain, c'est que à la fois il y a cette bonne conjoncture de court terme et il y a effectivement des nuages noirs qui s'accumulent à l'horizon. Je crois que la phase qu'on est en train de vivre aujourd'hui, au fond, et c'est pour ça que c'est une phase un peu de bascule. C'est-à-dire que après la crise, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises et notamment des politiques monétaires ultra accommodantes, énormément de création de liquidités, 9000 milliards de dollars au niveau mondial pour essayer de relancer l'activité. Pendant des années, ça a surtout relancé, d'une part, ça a inondé de liquidités les économies. Donc, ça a créé un contexte dans lequel le crédit a repris. C'est-à-dire que, et on se trouve dans cette situation très paradoxale où 10 ans après une crise majeure qui était une crise d'endettement, on est plus endetté encore qu'avant la crise. Ça a relancé.
Voilà, parce qu'il faut dire, plus il y a de liquidités, plus ça incite, on va dire, plus les taux d'intérêt sont bas, plus ça incite les banques à faire des crédits.
Absolument, le crédit était, disons, gratuit d'une certaine façon pendant cette période, hein, non pas qu'il fallait pas rembourser, mais on payait pas d'intérêt. Donc actuellement, il y a eu des émissions obligataires. Il y a eu jusqu'à un certain moment 40% du total mondial qui se faisait à des taux négatifs. Donc l'effet que ça a eu, ça a effectivement été de vraiment pousser très fort et de gonfler les prix des actifs, notamment en bourse, d'où la très forte augmentation des prix en bourse. Mais aussi de l'immobilier dans un certain nombre de pays, le Royaume-Uni par exemple. Et disons, la nouveauté récente, c'est que jusqu'à il y a relativement peu de temps, ça n'avait pas réussi à vraiment relancer de façon significative l'activité, hormis les États-Unis quand même depuis quelques années. Ils ont une phase de croissance qui est relativement lente, mais qui est très longue. Et donc, le paradoxe, c'était que jusqu'à il y a 6 mois, en particulier, on ne voyait pas non plus l'activité reprendre de façon franche, et surtout l'inflation aussi restait étonnamment atone. Et donc encore au printemps dernier, aux États-Unis, il y a eu des surprises d'inflation qui étaient plus faibles que ce qu'on attendait en juin dernier, et qui a vraiment relancé un débat très fort. Est-ce que l'inflation a disparu ? Avec donc beaucoup d'anticipations contradictoires sur ce qui allait se passer, et l'inflation, c'est évidemment très important pour tous les investisseurs. Aujourd'hui, avec ces chiffres dont Eric Heyer vient de parler tout à l'heure, c'est-à-dire cette surprise avec une inflation un peu plus élevée et puis des créations d'emplois plus élevées aussi aux États-Unis que ceux qu'on attendait, tout d'un coup, dans cet environnement très fragile où beaucoup de monde s'interrogeait sur ce paradoxe, on a l'impression que c'est un moment de bascule des anticipations. On se dit, finalement, l'inflation, non, elle n'était pas tant partie que ça, elle est peut-être pas très loin, son retour, disons, n'est peut-être pas très loin de nous.
Voilà, parce que c'est cette crainte d'un retour de l'inflation, Eric Heyer, qui peut expliquer que les marchés financiers aient réagi de cette manière la semaine dernière, c'est-à-dire les salaires sont annoncés en hausse, je le redis, hein, aux États-Unis. C'est donc qu'il va y avoir de l'inflation, parce que plus on paye cher les salariés, a priori, plus on va renchérir en tout cas les produits que l'on vend. Donc il y a de l'inflation, donc quoi ? Donc il y a les taux d'intérêt derrière qui augmentent, c'est comme ça que ça fonctionne ?
Alors, c'est un peu comme ça, mais on peut revenir quand même sur le premier lien. Là, pour l'instant, on ne voyait pas de progression des salaires, et donc on se disait, tiens, il y a encore un peu peut-être de marge de manœuvre en termes de croissance économique. Les taux d'emploi aux États-Unis ne sont pas revenus au niveau d'avant-crise, donc en fait, ils ne sont pas encore à pleine utilisation des capacités de production, et donc la croissance peut être au-dessus de la croissance potentielle, et encore du rattrapage. Bon. Donc on attendait d'abord ce signal. Il vient d'apparaître, ce signal. Ce signal ne veut pas dire forcément qu'il y aura de l'inflation. Vous voyez que il est aussi possible que les entreprises, dans un environnement concurrentiel, avec des économies low cost, prennent sur leur marge. Ça, c'est pas interdit, encore une fois. Progression des salaires ne veut pas forcément dire inflation. Ça va être l'autre nouvelle que l'on va attendre avec... c'est demain, à 14h30, de mémoire, il y a la statistique d'inflation aux États-Unis. Est-ce que effectivement la progression des salaires va se refléter dans la progression des prix, ou est-ce que les entreprises vont l'absorber en termes de marge ? Est-ce que finalement dans le plan Trump, il y a quand même des aides aussi aux entreprises ? Est-ce qu'elles vont pas utiliser une partie de ces aides pour justement éviter l'inflation ? Donc on n'est pas encore sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de correction sur le marché boursier. On est encore très loin.
On est dans l'anticipation, on n'est pas dans la réaction.
Et, Et donc effectivement, mais imaginons que demain les prix progressent beaucoup plus rapidement. Donc on a une inflation qui accélère. Alors l'anticipation, c'est de dire, l'inflation va repartir. Et là, même là, on n'est pas encore sûr de la catastrophe. Il faudrait que la Banque centrale américaine, la Fed, fasse une erreur de politique économique quelque part et réaugmente plus rapidement ses taux d'intérêt qu'annoncé. Donc, vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes tout de même dans l'enchaînement négatif. Et Pourquoi on est dans une incertitude? C'est qu'en plus, là, on va changer de banquier central aux États-Unis. Janet Yellen s'arrête, c'est Powell qui y va. On ne sait pas exactement, exactement sa doctrine. Et donc, il y a des craintes. Mais vous voyez, on est encore dans des craintes. Et effectivement, si la Banque centrale, comme elle le faisait par le passé, c'est-à-dire que lorsqu'elle décidait dans le passé d'augmenter les taux, elle les augmentait rapidement et de façon significative. Et donc, si on retombait dans ce travers-là, parce que ça serait un travers, alors là, il pourrait effectivement y avoir un complet changement de paradigme et en tout cas les bourses pourraient connaître une correction bien plus significative.
Yamina Tajeddine, est-ce que vous êtes d'accord avec ce haut niveau d'incertitude que vient de décrire Eric Heyer? Et si oui, comment expliquer que, alors même si c'est pas la catastrophe, on n'est pas dans un krach boursier, hein, on est peut-être effectivement dans des réajustements, même s'il y a quand même des réactions qui semblent être aussi motivées par ces craintes et par ces anticipations, comment expliquer que les marchés financiers face à un tel niveau d'incertitude et quand même cette réaction qui soit quand même globalement d'aller vers la baisse?
Alors, je dirais qu'il y a pas mal de facteurs hein, qui peuvent jouer. Et effectivement, je suis d'accord avec l'intervenant précédent de cette incertitude. Et notamment, par exemple, la boucle salaire, inflation, on a quand même, c'est un peu quand même un registre qui a été mobilisé depuis 40 ans, qui est un peu vieillissant. Et au fond, on n'est pas du tout certain que l'inflation soit majoritairement liée au prix, parce que notamment, on peut voir qu'ils sont beaucoup plus liés à la variation des prix de l'énergie, des matières premières, qu'on est rentré plutôt dans ce que certains appellent un régime low cost, où malgré tout, on a des données structurelles profondes qui font que l'économie est en train de changer. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait de stagnation séculaire. Alors maintenant, on a une reprise de la croissance, donc on abandonne ce terme-là. Moi, je suis plutôt proche d'une analyse structurelle et de long terme. Et je pense qu'en fait, l'incertitude vient aussi de ces mécanismes-là. C'est-à-dire qu'au fond, on a des modèles en tête qui marchaient très bien quand on était en régulation fordiste ou après. Maintenant, ce qu'on a comme futur productif est quand même radicalement différent de ce qu'on a connu. Et donc, ce qui expliquait par le passé les variations de cours ou les anticipations, eh bien, sont à repenser. Et je pense que actuellement, on est dans cette forme d'incertitude sur ce qui doit faire bouger l'opinion du marché. Est-ce que les salaires vont expliquer l'inflation? Est-ce que l'inflation est un problème? Parce qu'au fond, on nous dit que ça l'est, mais au fond, vu actuellement les niveaux d'inflation, on est quand même très loin de ce qu'on a pu connaître dans les années 70-80. Donc vraisemblablement, c'est pas une augmentation de quelques points de l'inflation qui va anéantir totalement l'économie.
Mais Yamina Tajeddine, et d'ailleurs je pose la question à vous trois, est-ce que l'inflation est bien comprise par les marchés financiers? Il y a quelques jours de cela, une interview d'un de vos collègues économistes, Eric Delannoy, qui disait « La plupart des traders qui sont aux manettes aujourd'hui n'ont pas l'habitude des situations inflationnistes, ils ne savent pas comment réagir ». Vous en pensez quoi, Yamina Tajeddine?
Ben, je pense que c'est une réalité, c'est-à-dire que bon, j'aime beaucoup les travaux de Schiller, hein, et sur cette question des schémas mentaux, des formes de relations, de causalité qu'ont les acteurs, eh bien, je pense que c'est important de les tester, de les connaître. Donc, je me souviens d'un travail passionnant qu'avait fait Marie Brière sur ces relations, où on voyait que les causalités entre l'inflation et les prix avaient radicalement changé quand on regardait entre les années 70 et 2000. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on voit bien que l'inflation ne peut plus être constitutive de la variation des cours, puisqu'encore une fois, la volatilité elle ne s'explique pas par la variation des prix, vu que la variation des prix est relativement atone. Et quand on compare par rapport à ce qui se passe sur les marchés, eh bien on voit que c'est en aucun cas un paramètre qui fonde ces schémas mentaux qui sont mobilisés par les opérateurs boursiers.
Sébastien Jean, Eric Heyer, quand des acteurs économiques sont confrontés à un changement important, en tout cas anticipe un changement important, est-ce que ça provoque toujours un moment de désordre? Et est-ce que c'est aussi comme ça qu'on peut expliquer un certain nombre de crises?
Sur les marchés boursiers, notamment, ces phases d'évolution un peu brutales sont des phases d'instabilité parce que bon, il y a toute une partie d'imitation, disons, dans les comportements des marchés boursiers. Donc souvent, on a des anticipations qui sont ancrées finalement par un processus d'imitation qui est un peu itératif. Il y a des leaders d'opinion et on essaie de comprendre aussi ce que les autres pensent parce que en bourse, finalement, avoir raison, ça n'est pas tant déchiffrer les fondamentaux des marchés que de de comprendre ce que les marchés, ce que les autres sur le marché pensent. Hein. Bon, ça a été développé beaucoup, notamment par des économistes français, ce genre d'analyse comme André Orléans, par exemple, ou Michel Aglietta. Donc, dès lors qu'il y a des mouvements assez soudains, des évolutions, à ce moment-là, on est dans une période où il y a plus d'incertitudes, et c'est ça qui est à l'origine de ces variations assez brutales, et c'est un peu ce qu'on craint en ce moment. Ensuite...
Donc, il peut y avoir eu une accoutumance, là, par exemple, à une très faible inflation, avec donc cette, des taux d'intérêt très bas, et quand on anticipe, justement, quand on voit que cette inflation peut remonter, que ces taux d'intérêt peuvent remonter, ça perturbe un petit peu le comportement de l'ensemble des acteurs.
Absolument. On voit le niveau où finalement la fiabilité de ce qui était le consensus d'opinion, disons, sur le marché, est en train de s'effriter. Et est-ce que il est temps déjà de penser qu'il faut retourner ses anticipations, c'est-à-dire finalement je pensais qu'on était durablement dans une phase de sous-inflation, d'inflation très basse. À quel moment je dois me dire, en fait, l'inflation peut remonter. Et c'est vrai ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une inflation, l'inflation est très faible et ça serait pas mal qu'elle remonte. D'ailleurs, il y a des débats actuellement pour savoir si les banques centrales ne devraient pas augmenter leur cible d'inflation. On l'a passé à 4%, par exemple, au lieu de 2%. Donc, on peut se dire, de ce point de vue-là, ça n'est pas forcément une mauvaise chose. Et puis, ça aiderait aussi potentiellement à résoudre certains problèmes de dette, même si, bon, c'est pas tout à fait aussi simple que ça. Mais simplement, il faut savoir que quand il y a une variation brutale, quand l'inflation augmente, les taux d'intérêt augmentent aussi, et notamment sur les marchés d'obligations, on peut avoir un effondrement des prix des obligations. C'est ce qui s'était passé en 1994. Et il y a aussi ce spectre actuellement sur les marchés financiers, dire est-ce qu'on ne va pas vers des évolutions de marché très fortes, et ça engendre un risque, et tous les acteurs veulent se couvrir contre ce risque.
Eric Ayer.
Non, mais c'est vrai que vous avez des mouvements non linéaires. En fait, c'est ça qui est un peu compliqué à expliquer, et même à anticiper. C'est-à-dire qu'on pousse la porte, on met beaucoup de force à pousser la porte, elle bouge pas, et puis d'un coup elle cède. Non, mais c'est un peu ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que globalement, les anticipations d'inflation, ils sont généralement ancrées à un niveau, et donc on a beau avoir quelques signaux, on change pas d'anticipation comme cela, et puis d'un coup, on cède. Alors là, est-ce qu'on a cédé? Moi, je ne crois pas qu'on a cédé. C'est encore une fois, c'est une petite correction qui est en train de se passer. Et même, je pense que ça va continuer, cette correction. Vous voyez que faut rappeler, il y a eu 16 mois de progression des bourses quasiment ininterrompues. Quand j'appelle ininterrompues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de baisse de plus de 5%. Donc, et c'était du jamais vu. Et habituellement, les phases haussières sont beaucoup plus courtes. Donc, vous voyez, on a vécu une phase un peu exceptionnelle, et donc il est normal que même dans cette phase-là, il y ait des corrections à moins 10. On n'a même pas fait ces moins 10. Donc, vous voyez, même moi, qui ne suis pas un grand spécialiste là-dedans, je pense que ça peut un peu continuer sans qu'on parle de crack. Mais, vous voyez, sur ces anticipations d'inflation, en fait, le problème de l'inflation, c'est pas est-ce que c'est bien 3, 4 ou 5% d'inflation, me semble-t-il, c'est plutôt est-ce que cette inflation est stable et quelle est la stabilité de cette inflation. Si on pouvait nous dire demain l'inflation elle sera à 3%, mais elle est stable à 3%, ça, il n'y aura aucun problème, ou stable à 1%, il n'y aura aucun problème. Le problème, c'est quand on ne sait pas exactement quelle sera l'inflation demain et est-ce qu'elle peut progresser plus rapidement qu'anticipé. Donc, c'est là le rôle des banques centrales, c'est plutôt essayer de stabiliser cette inflation-là. Et donc, dès que l'ancrage des anticipations saute, alors là, ça devient plus compliqué pour les banques centrales de réguler cette inflation.
Ça veut dire aussi que, ça pose la question, alors qui n'est pas une question tout à fait neuve, de la rationalité des acteurs économiques et notamment des investisseurs sur les marchés financiers, que plus il y a d'incertitudes, et finalement, quel que soit l'état de l'économie, plus il y a de niveau d'incertitude, plus il y a risque d'instabilité, quoi, c'est ça.
Ah, mais c'est certain, c'est pour ça que l'économie n'est pas une science exacte et qu'on a beau essayer de modéliser avec des méthodes extrêmement sophistiquées. Modéliser l'incertitude est quasi chose impossible, et donc il fait qu'on aura des surprises et qu'on fait finalement que des scénarios hors incertitude.
Mais c'est ce qui peut aussi créer de l'inquiétude, c'est-à-dire uniquement chez les investisseurs financiers, mais plus largement dans le grand public, Sébastien Jean, parce qu'on se dit que justement le moindre changement, la moindre incertitude peut quand même avoir un impact sur les marchés et donc sur l'économie réelle, parce que ça a un impact.
Oui, ça a un impact. D'une certaine façon, la période récente était une période dans laquelle il y avait un peu une négation de ces éléments d'incertitude, sans doute sous l'effet notamment des politiques monétaires qui avaient tendance à limiter la transmission de ce degré d'incertitude sur les marchés financiers. Effectivement, il y a dans un monde où il y a une grande incertitude, où il y a un certain nombre de chocs qui peuvent se transmettre de manière très rapide sur les marchés financiers avec potentiellement des effets très importants. Il faut savoir par ailleurs que donc les États-Unis sont dans une phase de croissance qui est une des plus longues de l'histoire moderne. Je crois qu'il n'y a eu que deux épisodes plus longs. Ça a commencé au milieu de l'année 2009, donc ça va bientôt faire 9 ans. Et or, historiquement, on n'arrive pas à prédire les retournements de cycle. La plupart du temps, un an avant le retournement de cycle, voire 6 mois, on ne prévoit pas qu'il va avoir lieu. Donc plus le temps avance, disons, plus tout le monde se dit « bon, ce retournement, il va avoir lieu quand même à un moment ou un autre ». Pas dans 10 ans probablement. Voilà, ça ne permet pas de dire il aura lieu dans 3 mois, dans 6 mois ou peut-être il a commencé. Ça permet pas de dire ça, mais ça crée une nervosité peut-être encore plus grande.
Yamina Tajeddine, Eric Heyer disait tout à l'heure que les bourses avaient beaucoup augmenté de manière continue pendant plusieurs mois et qu'elles pouvaient encore baisser avant qu'on puisse parler d'un véritable crack financier. Est-ce que vous êtes d'accord? Jusqu'où ça peut baisser jusqu'à ce qu'on puisse parler d'un crack financier? Et que ça ait surtout un impact sur l'activité économique.
Alors là, jusqu'où ça peut baisser? Si je le savais, je serais riche. Donc non, je ne pourrais pas répondre
à
cette question,
évidemment.
Et ça n'est pas le cas. Exactement.
Vous seriez peut-être plus prof, remarquez. Hein.
Je ne serais plus prof, exactement. Je serais bien triste. Donc, je ne pourrais pas vous aider. Par contre, c'est vrai que c'est tout l'enjeu, hein. C'est-à-dire que ces phénomènes de retournement, que ce soit sur le cycle économique ou le cycle financier, eh bien, sont cruciaux à déterminer et bien évidemment, on n'a pas nécessairement les outils. Bon, alors, je vais faire peut-être deux éléments pour quand même dire qu'on peut penser qu'il y aura un retournement et donc notamment, pour reprendre Schiller a publié récemment des statistiques sur ce qu'on appelle le price earning ratio et de montrer qu'il est élevé, mais il n'est pas autant élevé que ce qu'on a pu avoir en 2000 ou en 2007. Donc autrement dit, l'écart entre la capitalisation boursière et les résultats des entreprises, eh bien, n'est pas aussi dramatique que dans d'autres périodes où il y a eu un crack. Donc résultat, on pourrait encore augmenter si on prend ce critère-là, même s'ils atteignent déjà des niveaux assez importants. Et je voulais aussi
juste un petit élément d'explication, c'est-à-dire à partir de quel moment l'écart devient inquiétant entre la capitalisation boursière et les résultats des entreprises?
On n'a pas un seuil véritablement. Là actuellement, ce que disait Schiller, en moyenne on est à x15. Donc, et on a eu des multiples qui étaient bien plus élevés. On aurait pu, enfin, au moment de la, je vous dis de mémoire, depuis l'internet, on était à je crois, x100 pour certains titres.
Donc ça peut encore baisser, mais ça peut aussi encore augmenter sans que, voilà, que la grosse lumière rouge s'allume, quoi.
Voilà, c'est ça qui est paradoxal, c'est pour ça qu'on est en incertitude. Et je voulais aussi mentionner le fait qu'on avait, parce que les financiers ont des outils pour essayer finalement de conjuguer l'incertitude, et notamment ces derniers temps, on a beaucoup parlé de l'indicateur VIX, qui est ce qu'on appelle aussi la volatilité implicite, et qui est un indicateur qui est construit sur des options, sur des calls et sur des puts, pour essayer d'inférer d'inférer à travers les couvertures que les gens souscrivent, ce qu'ils anticipent pour le futur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, alors vous en avez peut-être entendu parler, ça a été assez documenté dans la presse spécialisée, qu'un certain nombre de fonds d'investissement avaient parié sur une baisse de cette volatilité.
Voilà, j'ai vu que ça s'appelait « shorter la vol ». J'ai vu ça dans un article d'Alternative économique. « Shorter la vol », alors explication de texte.
Eh bien, en fait, on anticipait qu'il allait plutôt avoir une baisse de la volatilité, donc de la variation des cours. Donc, autrement dit, ce qui est très intéressant, c'est que les gens qui ont fait ce pari-là étaient dans une démarche totalement opposée à celle qu'on décrit, où on mentionne tous les éléments d'incertitude qui existent, et eux pensaient au contraire qu'on irait vers quelque chose d'une stabilisation, et finalement qu'on avait plutôt la possibilité de parier contre une variation forte des cours sur le marché des actions américaines, parce que c'était surtout fixé sur le Dow Jones. Donc résultat, c'est assez paradoxal, c'est que pour certains opérateurs financiers, eh bien, eux étaient dans une démarche de confiance un peu exagérée sur cette stabilité financière, eu égard à tout ce qui vient d'être dit, à savoir effectivement les 9 ans passés de croissance aux États-Unis et puis ces 16 mois de progression constante sur les marchés. Donc on retrouve les schémas de tranquillité chez Raminski et donc le fait que finalement quand on est dans des schémas de confiance durable, surtout aux États-Unis, eh bien on se laisse un peu berner par une forme de surconfiance et de réduction des risques réels supportés.
Et justement, pour les auditeurs profanes dont je fais partie, hein, parce que je ne suis pas moi non plus économiste, enfin quand je dis moi non plus, c'est pas par rapport à vous trois, hein, bien entendu, Sébastien, Jean-Yamina, Tadjedine et Eric. Et hier, je me rends compte en le disant que c'est peut-être un petit peu maladroit. Mais pour l'auditeur profane que je suis, c'est vrai qu'on a du mal quand même toujours à comprendre, c'est-à-dire parce que 2018 en plus c'est une année particulière, c'est les 10 ans de cette crise financière, comment on peut encore se laisser berner justement de cette manière? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des leçons qui ont été tirées de 2008 pour qu'il y ait davantage, je reviens à mon terme de rationalité justement sur ces marchés?
Alors d'abord, est-ce que si la bourse devait s'effondrer un peu plus, est-ce que ça provoquerait la crise de 2008? Oui. Non, c'est pas assuré non plus, hein. Il n'y a pas un lien direct entre, la crise de 2008, c'est pas uniquement l'effondrement de la bourse, hein. Une baisse de la bourse ne veut pas dire forcément une récession. 2000 a été une baisse assez marquée de la bourse sans qu'il y ait eu une récession mondiale. Il y a eu un ralentissement de l'économie, ça provoque des effets de richesse sur les ménages, donc une épargne supplémentaire à reconstituer, donc moins de consommation, moins d'investissement de la part des entreprises parce que effectivement il faut qu'il y a moins de capitalisation boursière. Mais voilà, donc attention, ça veut pas forcément dire ça. Donc là, il me semble que les leçons qu'on a à peu près retenues, mais on n'est pas allé suffisamment loin à mon sens, mais qu'on a à peu près retenues, c'est il faut un peu mieux réguler tout de même le système bancaire. Mais il est mieux régulé tout de même, même si c'est pas parfait. Aujourd'hui, pourquoi on n'est pas en 2008? C'est parce que les banques ont tout de même un matelas un peu plus conséquent et peuvent effectivement sont dans une meilleure situation qu'en 2008. Sébastien Jean a parlé d'endettement qui a augmenté. Certes, c'est vrai, mais on voit
l'endettement privé.
Et voilà, c'est ça, c'est que c'est l'endettement total qui a augmenté, mais c'est davantage l'endettement public qui est élevé. L'endettement privé est beaucoup plus faible aujourd'hui, enfin dans beaucoup de pays, sauf la France d'ailleurs. La France, l'endettement privé a augmenté, mais sinon c'est l'un des seuls pays où l'endettement privé a augmenté. Et on voit bien que les crises, les grosses crises financières, ça part lorsque l'endettement privé est arrivé à des niveaux extrêmement élevés. Si on a retenu quelque chose, en tout cas de la grande crise de 2008, me semble-t-il, c'était cela. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à un trop fort endettement privé. Et là, il me semble que c'est un peu mieux régulé, même si on peut faire beaucoup mieux. Et d'ailleurs, Christine Lagarde appelle à plus de régulation. Et je pense que c'est important et c'est un message important à faire passer aux banquiers centraux américains.
Donc on est peut-être moins aujourd'hui dans l'idée, Sébastien Jean, de dire on va essayer d'empêcher le choc que de mieux y résister.
Je pense un peu les deux, mais c'est vrai qu'on n'est pas. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui en est dit dans le sens où il ne faut pas se fier seulement au baromètre, disons, d'un chiffre général d'endettement et sa structure compte beaucoup. Et on est dans une situation assez différente de celle de la crise précédente. Cela dit, chaque crise est différente de celle qui la précède, donc on ne peut pas simplement extrapoler ce qui s'est passé précédemment. Ce qui est sûr,
aussi produit quelque part, même si c'est un problème indirect.
Oui, c'est vrai, partiellement. Ce qui est sûr, c'est qu'on a justement effectivement retenu l'importance de réguler la finance. Ça a été fait dans une certaine mesure.
Quand vous dites dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il faut entendre le terme mesure au sens de manière mesurée.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de débats, beaucoup de controverses pour savoir dans quelle mesure effectivement on a suffisamment, disons, augmenté les niveaux de ratio prudentiel, par exemple, dans les banques. Ça, c'est un débat qui est toujours ouvert. Voilà. Il y a eu en tout cas un certain nombre de réformes qui ont été faites. Il y a des risques, on voit avec la tentation aux États-Unis de vouloir lancer des politiques de dérégulation assez larges. Donc pour l'instant, ça ne s'est pas matérialisé, mais c'est quand même quelque chose qui est dans le paysage aussi, qui fait partie des risques. Et d'ailleurs, ça m'amène à souligner un autre point sur lequel on n'a pas insisté jusqu'à maintenant, c'est que je pense que dans cet instant d'incertitude, d'incertitude notamment sur les anticipations, je pense qu'il y a un élément qui est important également, c'est les politiques de Donald Trump. C'est-à-dire à la fois donc cette tentation protectionniste et puis cette réforme fiscale qu'il a passée en décembre, qui diminue les rentrées fiscales des États-Unis de l'ordre de presque 1 500 milliards de dollars sur 10 ans. sans dire comment tout ça va être financé. Donc en fait, c'est non financé, c'est un alourdissement colossal de la dette, en aggravant considérablement les inégalités, parce que c'est essentiellement des réductions des impôts sur les entreprises. Donc ça va profiter potentiellement aux détenteurs, aux possesseurs de ces entreprises, propriétaires de ces entreprises, donc aux actionnaires.
Lançant un grand plan d'infrastructure, de rénovation des infrastructures, là, même si l'État fédéral ne sera pas celui mettra le plus aux pauvres. Enfin, c'était hier, sur 10 ans, là aussi.
Sans dire non plus comment il le finançait. Voilà.
1500 milliards de dollars, c'est l'objectif visé pour rénover les routes, reconstruire des ponts, les voies ferrées.
Oui, absolument. Mais là encore, il ne dit pas comment il va le financer. Donc, d'une part, il dit que finalement, là-dedans, il n'y aurait peut-être que 200 milliards qui viendraient de l'État fédéral. Tout le reste, il va faire payer beaucoup d'autres gens. Bon, mais il reste à savoir comment exactement. Et puis, de toute façon, il n'a pas donné le premier indice de la trace du financement. Tout ça, ça laisse penser qu'on a une politique de reprise forte qui est en train d'être menée au moment même où on se demande si l'économie n'est pas en surchauffe. Donc c'est vraiment à contre-temps. Et par ailleurs, ça laisse craindre qu'au moment où le cycle va se retourner, il n'y ait plus de marge justement budgétaire pour faire à ce moment-là la relance budgétaire qui sera effectivement nécessaire. Donc ça suscite beaucoup d'interrogations, je pense, cette réforme également.
Eric Hier.
Oui, non, mais c'est vrai que la politique de Trump c'est pas un économiste qui a pu lui souffler. Effectivement, il fait exactement ce qu'il faut pas faire à ce moment-là. Donc, et effectivement, ça devrait faire de l'inflation, ça devrait augmenter les déséquilibres de sa balance courante. Donc, c'est un peu catastrophique. Donc, ça fait baisser aujourd'hui le dollar. Donc, c'est encore plus inflationniste. Donc, effectivement, dans cette
étant
question...
Étant donné le fait que c'est une politique qui est protectionniste, est-ce que ça suscite moins d'inquiétude que peut-être avec une Amérique qui était plus ouverte sur le monde et qui avait donc plus d'impact.
C'est vain de penser que, effectivement, la seule façon de s'en sortir, c'est de fermer les frontières. Enfin, effectivement, ça serait en économie fermée, cette politique-là aurait un petit sens, etc. Mais de toute manière, l'économie américaine n'est pas absolument pas une économie fermée. Vous pouvez mettre un peu des taxes douanières, etc. Ça augmentera encore plus l'inflation, mais globalement, c'est vain. C'est-à-dire, cette politique-là, les montants ont été rappelés par Sébastien Jean, mais en gros, globalement, c'est plus important que le plan Obama de relance au moment de la crise économique. Donc on est vraiment dans un schéma qui est assez incroyable et qui effectivement pose problème de sa soutenabilité à long terme et de l'inflation. Donc qu'aujourd'hui on ait des craintes d'inflation tirées par les salaires, c'est un peu nouveau, mais on pouvait aussi l'anticiper avec ce plan de relance qui est surdimensionné par rapport à la situation macroéconomique. Et donc, mais ce qui est étonnant, c'est que les marchés financiers ont d'abord applaudi. Vous voyez que les bourses ont augmenté chaque fois, systématiquement, que les annonces étaient mises en place. Donc, c'était vraiment du très court terme, en disant, oui, à court terme, ça va relancer l'activité, même si ça va faire de l'inflation, et donc on le perdra un peu plus tard. Ça a été applaudi. Peut-être que là, les marchés financiers se rendent compte que c'est sans doute un peu surdimensionné et qu'à terme, c'est pas soutenable.
Alors, vous l'avez dit, ce qui est important, évidemment, c'est les politiques de régulation et les outils qui vont avec. Justement, à ce sujet, Yamina Tajeddine, est-ce que vous considérez qu'on a quand même fait d'importants progrès depuis la dernière grande crise, celle de 2008?
Je resterai un peu en accord avec la position modérée de Sébastien Jean là-dessus. Et donc, je pense qu'il y a eu des initiatives et qu'il faut pas les minimiser parce que, mine de rien, que ce soit par exemple la création de Financial Stability Board, donc le conseil financier au sein de la BRI, est, je pense, une chose très importante pour disposer d'informations sur la réalité des marchés financiers, mesurer leur instabilité, voir les liens entre les pays, les institutions.
La BRI, pardonnez-moi, qu'est-ce que c'est la BRI?
La Banque des règlements internationaux, donc qui est située en fait à Bâle. Et donc en fait, avant qu'il y ait un lieu de rencontre avec spontané, on va dire, il n'y a pas d'obligation à y être, des banquiers centraux. Et donc c'est au sein de la Banque des règlements internationaux que figure le comité de Bâle, qui donc avait pour fonction de réglementer les activités bancaires. Et donc ce conseil financier a pour objectif de finalement regarder ce qui se passe aussi du côté de la sphère financière. Et je pense que ceci est vraiment très important à long terme dans l'idée de réguler aussi les marchés financiers au même titre que les banques. Mais comme je l'ai mentionné précédemment, je pense qu'il y a un grand oublié de cette activité, même si initialement il y avait un désir d'engager des régulations à son niveau, c'est la question de ce qu'on appelle le système shadow banking en anglais. En français, on parle de banque de l'ombre ou banque parallèle. Et là, pour le coup, eh bien, on a eu des efforts qui ont été faits, on va dire, par silo. Donc, on a essayé de passer par les banques pour attaquer ce problème, d'essayer de modifier la réglementation des marchés financiers pour attaquer ce segment-là, mais sans aucune réussite réelle. Et je pense qu'en fait, là, on a une grande source de fragilité qui est en fait le fait qu'aujourd'hui, les financements bancaires et financiers s'entremêlent et les risques, personne ne veut vraiment les prendre. Les banques essayent d'évacuer le risque de crédit sur qui veut bien les prendre. Mais derrière, on va retrouver des acteurs financiers comme les assurances ou les fonds monétaires qui le prennent. Et en fait, finalement, ce problème-là n'a absolument pas été réellement attaqué. Et donc, juste pour rebondir sur la question de Trump, si Trump doit financer ses projets, il va falloir qu'il émette des obligations. Et ces obligations, elles transiteront inéluctablement par le shadow banking qui n'est absolument pas régulé. Et donc, en fait, on voit qu'on a là aussi une incertitude forte.
Merci beaucoup Yamina Tadjeline, Sébastien Jean et Eric Heyer d'avoir participé à cette discussion. Merci également à nos camarades de France Bleu à Nancy pour avoir assuré le duplex, ainsi qu'à toute l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richet, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Clément Daté. Je renvoie quand même à nouveau à l'économie mondiale 2018. La dernière édition en date, c'est publié par le CEPI que vous dirigez, Sébastien Jean. Merci à tous. La dispute Arnaud Laporte, c'est presque tout de suite.
Dans 3 minutes, nous parlerons de musique ce soir. Hervé Gardette est dans Du Grain à Moudre demain.
La réforme du bac, l'auriez-vous si vous le passiez cette année? Je ne sais pas. En tout cas, un autre bac est-il possible? C'est ce qu'on se demandera demain à 18h20.